Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Attention, portez vos masques, pensez à vous laver les mains, geste barrière. Qui n'a pas en cette rentrée parfois l'impression de vivre dans une pièce trop étroite? Aussi, pour nous donner un peu d'air, je vous propose de voyager à travers le monde, mais près de chez vous. Voyager près de chez soi aurait pu être le titre du livre de celui qui va nous servir de guide ce matin, un guide au cœur d'enfant, puisqu'il est aussi chasseur de papillons. Voyage en Occitanie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. Avec comme invité et pour guide Jean-Marc Sor, vous êtes entomologiste, président de l'association Pyrénées Entomologie et auteur entre autres d'un ouvrage, Occitanie, miroir du monde, paru aux éditions Plume de Carotte. Bonjour.
Bonjour.
Merci de faire un détour par nos studios. Alors vous êtes venu sans appareil photo et sans votre treillis d'aventurier, mais on imagine qu'ils sont presque au placard. Et vous me disiez, je le précise puisque vous y teniez, vous êtes aussi dans la vie civile, infirmier en bloc opératoire au CHU de Rangueil. Alors on va faire connaissance un petit peu avec vous et puis on va parcourir ce livre, Occitanie, miroir du monde, très beau livre. On voit en couverture des montagnes bleues. Ça évoquera à certains quelque chose, entre autres pour ceux qui habitent du côté de l'Ariège, et les autres se laisseront prendre par la main. Le mieux, c'est de commencer par vous, Jean-Marc Sor. Alors avant qu'on parle un petit peu de votre enfance, puisque dans les biographies qu'on peut trouver, on comprend que votre amour de la nature n'est pas sans lien avec votre enfance. Tout de suite, il faut évidemment expliquer ce qu'est un entomologiste. Expliquez-nous.
C'est juste une personne qui est passionnée par les insectes. Moi, en particulier, c'était plutôt les papillons, parce que les insectes, c'est assez vaste. Donc, on trouve des spécialistes des carabes, des coléoptères, des papillons.
Les spécialistes des crabes et des coléoptères, ça s'appelle comment?
Non, pas des carabes. Pas des crabes, des carabes. Donc, ce sont des petits insectes qui courent sur le sol, qui sont parfois de couleurs superbes. D'ailleurs, souvent, dans la région, il y a beaucoup d'espèces très, très belles qui sont... dans les bois de tous les départements de la région.
Les carabes, donc c'est quoi un spécialiste? C'est quoi un carabagiste alors ou...
Non, je ne sais pas, mais c'est toujours un entomologiste.
Un entomologiste.
Voilà, et donc à l'époque, il y avait un club d'entomologie à Toulouse où on se regroupait pour parler un petit peu de tout ce qu'on faisait. Et alors, c'était un peu cosmopolite parce que il y avait ceux qui s'occupaient des carabes, ceux qui s'occupaient de telle espèce en particulier. Donc, il y avait eux qui s'en occupaient, d'autres qui s'occupaient des papillons, etc. Donc c'était assez marrant. Ça, c'était mes débuts quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis après, très vite, les entomologistes sont plutôt des personnes qui montent des projets en individuel ou en petit groupe. Et nous, c'était notre cas. On a d'abord créé en 1988 l'association Pyrénées Entomologie, qui était destinée... à promouvoir, entre guillemets, l'entomologie au sein des enfants, etc., pour qu'ils puissent
découvrir
et en ayant découvert dans un second temps, en espérant qu'ils se serviraient de ce vecteur-là pour protéger l'environnement dans lequel ils évolueront plus tard en tant qu'adultes. Donc c'était ce que nous, on a commencé à faire, c'est-à-dire, dans un premier temps, on a couru après les papillons... en les attrapant pour réduire l'espace qu'il y avait entre l'œil et le papillon qui volait, pour l'avoir dans la main, pour voir comment il était de près, comment c'était fait, voir les différentes espèces, et faire une sorte d'inventaire de ce qu'il y avait dans la zone pyrénéenne où j'ai grandi. Et puis ensuite, on voit que au fil des expéditions planétaires qu'on a menées, on a ramené beaucoup d'images, déjà.
Alors, on va y revenir, si ça ne vous embête pas. Hein. Vous avez deux compères, il faut les citer, Christian Bois et Gilbert Murat. Dans le livre dont on va parler, donc Occitanie, miroir du monde, ils sont cités et ils ont participé aussi donc, à vos aventures. Avant qu'on parle de vos expéditions, donc vous êtes né en 1963 à Saint-Gaudens. Vos courtes biographies disent que vous êtes un amoureux des sciences naturelles. Et alors, tout ça, votre passion serait venue d'un instituteur de CM2. Expliquez-nous ce coup de cœur et cette rencontre. Qu'est-ce qu'il a fait, cet instituteur?
En fait, moi, je me souviens que j'étais mes parents étaient originaires des Petites Pyrénées, endroit où se trouvaient mes grands-parents, etc.
Et les Petites Pyrénées, c'est quoi ?
Les Petites Pyrénées, c'est la région de Salis du Salat, donc
Les
Pré-Pyrénées, quand la chaîne commence un peu à bouger, là, on est sorti de la plaine, ça commence à y avoir un peu de relief, mais on n'est pas du tout dans la haute montagne. Donc on est dans une altitude entre 300 et 700 mètres.
D'accord.
Voilà. Et donc tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, j'étais toujours là-bas chez mes grands-parents, à découvrir cet espace, ces biotopes, avec cette biodiversité. Donc à l'époque, j'allais autant avec ma canne à pêche au bord des ruisseaux qu'avec le filet à papillons. Donc à un moment donné, il a bien fallu choisir. Donc j'ai naturellement choisi l'entomologie.
Et ce prof, alors
Et donc ce prof, moi j'étais scolarisé sur Toulouse. Donc la semaine, j'étais à Toulouse avec mes parents. Et donc, j'habitais là dans le secteur d'Ampalo, et à côté, j'allais à pied à l'école, je me souviens. Et cet instit, nous avait montré en fait une boîte avec des papillons naturalisés à l'intérieur, des papillons de chez nous et des insectes aussi. Et moi, ça m'avait frappé de la beauté, et puis surtout aussi de pouvoir les voir de près. Ils ne bougeaient pas, ils étaient morts. Et donc, on pouvait voir les détails, etc. Chose que sur un papillon qui vole, c'était très compliqué, quoi. Donc, on était plus dans l'imaginaire. Et donc, sur le trajet de l'école, je me souviens qu'ils nous disaient, mais voilà, si vous trouvez quelque chose, vous le ramenez en classe.
Vous voulez dire qu'il y avait des papillons à l'époque à Toulouse ?
Bien sûr, il y avait des papillons, des abeilles, il y avait des guêpes, il y avait tout un tas de trucs. Et donc, moi,
À l'époque ?
Cette époque, oui, c'était extraordinaire. Donc, j'avais peut-être 20 minutes de marche pour aller à l'école. Il y avait des haies, de troènes, etc. Ça sentait fort. Et il y avait beaucoup d'insectes dessus. Et avec nos cahiers, on assommait les insectes et on les mettait dans des pots. Et on arrivait tout fiers en classe, et puis on montrait ce qu'on avait trouvé au spécialiste qui était notre instituteur. Et voilà, et ça a commencé comme ça un peu.
Alors vous êtes devenu donc entomologiste en herbe, et puis rapidement, vous avez eu le goût des grands espaces. Donc en 1984, vous commencez votre quête d'images planétaires sur les papillons, vous avez 21 ans, et vous montez une première expédition donc dans l'Himalaya. Qu'est-ce que vous êtes parti chercher ?
Ben, il se trouve que je suis moi pyrénéen donc d'origine, et dans les Pyrénées vole un papillon emblématique de la chaîne qui s'appelle l'Apollon. C'est un papillon qui a besoin de neige pour être présent, donc on ne le trouve pas dans les Petites Pyrénées où je passais mes vacances, il faut monter un petit peu plus. Et il a besoin de neige constante, donc il ne faut pas qu'il neige une année et pendant 3 ans qu'il n'y a plus de neige. Parce que dans le cycle de vie, quand le papillon pond ses œufs en début d'été, il pond sur du sédum et des plantes basses qui poussent facilement dans les rocailles, à montagne, etc. Et la chenille va se développer à l'intérieur de l'œuf, mais ne va pas sortir. Donc elle est développée, elle est prête à sortir, et là, les premières neiges vont commencer à tomber. Et donc, elle se retrouve sous plusieurs centimètres, parfois plusieurs mètres de neige. Et donc, au niveau de l'œuf, la température est constante, l'hygrométrie constante. Et à la fonte des neiges, on imagine, la neige fond, et à un moment donné, le soleil va taper directement sur la coquille de l'œuf, parce que la neige a fondu. Et là, la température à l'intérieur de l'œuf monte en flèche, et la petite chenille sait qu'il faut qu'elle sorte, c'est le moment. Elle sort, et quand elle sort, bien sûr, il n'y a plus de neige, et il y a de quoi à manger, à porter, puisque les plantes sont... on est au printemps.
Alors quel est le rapport avec l'Himalaya, là ?
Et le rapport avec l'Himalaya, c'est que chez nous, on a deux espèces de ces papillons d'altitude, et tous ces cousins germains de ces deux papillons mythiques qui se trouvent dans les Pyrénées se trouvent sur les autres chaînes paléarctiques du globe, et notamment sur la chaîne royale, de l'Himalaya, où on a une bonne vingtaine d'espèces de Parnassus, ces fameux papillons d'altitude qui ont besoin de neige, etc. Sauf que dans l'Himalaya, au lieu qu'on les trouve comme dans les Pyrénées entre 1500 et 2005, là-bas, ça commence à 3005 jusqu'à 6000. Jusqu'à 6000, on a les neiges éternelles.
Donc vous êtes parti chasser vos papillons. Après, vous avez enchaîné les voyages comme ça, à travers le monde, à la chasse aux papillons à chaque fois ?
Ben oui, alors le prétexte était souvent celui-là, mais on s'est vite aperçu lors des retours des premières expéditions dans l'Himalaya, puisqu'on on est parti à trois reprises dans l'Himalaya, qu'il y avait un véritable engouement à l'époque sur ces récits d'aventure qu'on pouvait faire. Et nous, donc, on proposait des images en fondu enchaîné, comme ça se faisait beaucoup au festival à Royan, etc. Donc moi, j'étais allé voir les spécialistes du genre, comme Olivier Felmy, qui présentait des diaporamas en carrousel somptueux, avec des salles pleines, voilà. Et donc, il m'avait beaucoup conseillé sur la zone himalayenne dans laquelle j'allais, etc. Et donc...
Donc vous avez multiplié le voyage, pour en revenir à ma question.
Oui,
vous êtes parti beaucoup en Himalaya et ailleurs dans le monde, toujours à la chasse aux papillons.
Toujours à la chasse aux papillons, et de plus en plus, en fait, pour ramener de l'image. Parce qu'on avait compris que l'image, c'était le lien évident avec la population qui était à l'endroit où on vivait. Et pour rentrer en communication avec cette population, l'image, c'était royal pour les faire sortir de chez eux.
Alors, vous avez été donc l'auteur d'un coup de maître, si j'ai bien compris, pas tout seul, avec vos compères. C'est un papillon qui s'appelle le Croesus, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, Croesus, parce que ça, voilà, le nom est écrit en latin. Voilà.
Ce qui veut dire donc en français ?
Il a son nom en latin, c'est Ornithoptera Croesus.
Donc ça date de 2013. C'est un papillon que vous avez réussi à photographier pour la première fois dans son milieu naturel, la première fois de l'histoire, si j'ai bien compris. Dites-nous pourquoi ce papillon est célèbre.
Ben, en fait, moi j'avais trouvé au début, il faut revenir à l'époque quand j'ai une douzaine d'années, mais pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert un bouquin sur les papillons du monde, et à l'intérieur de ce bouquin, il y a un récit qui me marque, je dirais à vie, mais je ne sais pas encore pourquoi, c'est Alfred Russel Wallace, donc le contemporain de Darwin, qui, quand il découvre Croesus en 1859, raconte le moment précis où l'insecte rentre dans le filet, où il a enfin dans la main, alors que ça fait 4 mois qu'il essaye de réduire les 40 mètres qui séparent le papillon du sol.
Il est en Indonésie, c'est ça, hein ?
Il est sur une petite île d'Indonésie qui s'appelle Batchand. Et donc, il explore cet archipel, il décrit de nouvelles espèces. Et là, il tombe sur Croesus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout l'archipel indonésien, les cousins de Croesus, ils sont tous de couleur vert ou vert bleu. Et c'est constant d'une île à l'autre, c'est-à-dire donc pratiquement sur chaque île, il y a une sous-espèce de ces papillons verts ou verts bleus, ces papillons géants, différentes. Il arrive sur Batchand, et là, visuellement, il comprend que le papillon qu'il voit, c'est le même que les verts qu'il connaît, mais il est orange fluo et or. Il sait tout de suite que cette espèce est inconnue pour la science, mais il comprend aussi, parce qu'on est... au moment où on est en train de se poser tout un tas de questions sur la création, l'évolution, etc. Et donc, ils sont deux, à ce moment-là, sur la planète, à commencer à mettre en place cette théorie qui, ensuite, sera reconnue par tous. Mais à ce moment-là, il faut se replonger en 1859. On prend ces deux types un peu pour des fous. Et quand ils capturent Croesus, ils voient bien que c'est le même que les vers qu'ils connaissent. Mais à part que la couleur change, et il comprend qu'en fait, c'est l'isolement de chaque population au sein de ces îles qui a fait que depuis des milliers d'années, ils avaient probablement tous un ancêtre commun, et ils ont évolué de manière un peu différente. C'est tous les mêmes, mais pas avec la même couleur. Et donc, il écrit une lettre...
Ce Croesus étant la suite de l'évolution ou l'ancêtre ?
Non, il est comme les autres. Il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il est un des maillons de l'évolution, mais qui permet à Wallace de finaliser sa théorie. Et donc, il fait une lettre à Darwin où il explique toute sa théorie. Voilà comment il voit comment s'organise le monde. Et donc, quand Darwin reçoit cette lettre à Londres, eh bien, tous ses pairs, qui sont des hautes autorités scientifiques, lui disent « Mais tu vois, il en sait autant que toi. Donc, j'ai qu'un conseil à te donner. Rassemble tes notes et publie. » Parce que quand il va revenir de là-bas, c'est lui qui va publier. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant très très longtemps, tout le monde a parlé dans les livres d'histoire de Darwin. Mais j'ai eu l'opportunité, lors du tournage du film que l'on a pu réaliser pour France 3 et Ushuaïa TV l'année suivante, ce docu-fictionné, j'ai eu la chance d'aller dans les coffres-forts du Natural History Museum à Londres. Et en 2013, pour le centenaire de la mort de Wallace, les Britanniques ont réhabilité Wallace car quand on rentre dans la nef principale du Natural History Museum de Londres, il y a un diplodocus immense, et au fond, il y a Darwin en marbre blanc assis, en grandeur nature, et à côté de lui maintenant, il y a un grand cadre avec Wallace, et en dessous, marqué co-détenteur avec Darwin de la théorie de l'évolution des espèces. Et donc, ils sont très fiers, les Britanniques, parce qu'ils ont deux bonhommes, pas tant que ça, mais deux, qui ont marqué l'histoire. Et nous, on était tellement contents que ce soit finalement une petite équipe pyrénéenne qui rende hommage à ce travail extraordinaire de cet Anglais. Parce que nous, en général, ici, les Anglais, c'est pas trop nos copains. On est plutôt dans une terre de rugby. Et donc, on n'a pas grandi avec l'amour des Anglais. Mais là, c'était un vrai beau clin d'œil que cette petite équipe pyrénéenne rende hommage à l'un des grands explorateurs du siècle... du 19e siècle, en fait.
Magnifique histoire, donc, qui donne lieu d'ailleurs à la publication d'un ouvrage récent, Les aventuriers de l'évolution à la recherche des papillons géants d'Asie et d'Océanie, et c'est paru aux éditions Elitis. Alors nous, c'est un autre ouvrage dans lequel on va se plonger, que vous avez écrit juste avant, et vous m'avez dit juste avant l'émission que vous l'avez écrit quelque part avant de vous lancer dans l'aventure de ce récit, histoire de respirer. Occitanie, miroir du monde. Donc vous avez parcouru l'Occitanie, et puis en parcourant l'Occitanie, en allant un peu plus près de chez vous, vous vous êtes rendu compte que tel ou tel endroit vous rappelait tel ou tel autre à travers le monde, et vous vous êtes dit, on peut voyager à côté de chez soi. Ai-je bien compris?
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que donc il faut imaginer que la quête de Crésus, pour nous, ça a été 40 années, je dirais...
40 années, ah oui.
40 années d'exploration de la zone, mais tout le monde savait depuis 1859 que Crésus n'était que sur l'île de Batchian. Donc l'île, elle est petite, hein, elle n'est pas très grande, couverte de jungle, très difficile à pénétrer, on est d'accord, mais c'était connu de tous. Or, la plupart des gens vont mettre de l'argent pour trouver des espèces nouvelles, notamment les Japonais, ils sont très brillants là-dedans, mais personne n'avait mis, nous on a mis jusqu'au dernier centime tout ce qu'on avait sur la table pour faire ces premières images. On a eu la réussite, très bien, ça nous a permis derrière de pouvoir faire le film. Et on a mis beaucoup d'énergie et finalement on est allé sur Batchian quand on a eu, entre guillemets, une clé, deux clés, en pensant qu'on avait des chances de pouvoir le voir voler et surtout de pouvoir le photographier.
Alors revenez à cet ouvrage, ça vous a marqué.
Oui, et donc en fait on revient de ces 40 années d'investissement assez fatigué après la double expédition 2013-2014 et pour se ressourcer, comme d'habitude, on repart sur nos bases, c'est-à-dire dans les petites Pyrénées et près de chez nous. Et finalement, à ce moment-là, on a une vision de certains sites qu'on connaît bien qui nous rappellent des endroits où on est déjà passé dans le monde. Et selon l'éclairage du moment, etc., c'est bluffant. Alors, 1, 2, 3, 4 exemples.
Et ben ça donne un livre. Alors je vous propose, on va faire une pause et puis après on va se balader dans cet ouvrage justement, Occitanie, miroir du monde, c'est paru aux éditions Plume de Carotte. Je vous coupe un peu la chic, mais comme ça on garde, j'allais dire, le meilleur pour la suite. En tout cas, beaucoup de choses à parcourir, on va se promener, peut-être pas dans tous les départements de notre région, mais on a fait une bonne sélection déjà. Thank you.
Emmanuel Pella.
Voyage en Occitanie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec comme guide Jean-Marc Sor, entomologiste, amateur et auteur de Occitanie, miroir du monde, paru aux éditions Plume de Carotte en ce vendredi où traditionnellement on prend le large, loin peut-être de nos réalités spirituelles ou ecclésiales, pour voir mettre un coup de zoom sur toutes les belles choses qui se passent à travers le monde ou près de chez nous. Voilà, toutes les choses qui peuvent nous conduire aussi à Dieu. Alors, Occitanie, miroir du monde, on commence sa balade, Jean-Marc Sor, aux éditions Plume de Carotte, en tournant les pages jusqu'à retrouver la photo de couverture. C'est donc Montagne Bleue. Voilà, Montagne Bleue, donc ces montagnes, vous allez nous dire où on les retrouve. Et en tout cas, elles vous ont fait penser aux Blue Mountains. C'est donc cette fois en Australie. Allez, commençons par la photo en France. Si vous deviez nous décrire le moment où vous l'avez pris et où ce que vous avez vu ce jour-là ou ce matin.
Bien écoutez, pour avoir ce type d'image, il faut aussi avoir une part de chance et de réussite. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour mon 30e anniversaire de mariage, j'avais prévu d'amener ma femme au sommet du Pic du Midi. Et donc, comme les places sont très rares là-haut, chaque nuit, il n'y a que, je crois, 24 ou 27 places de dispo.
Un beau cadeau.
Voilà. Et donc, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et donc, j'avais pris, réservé la place au mois de novembre avant. Et ce 25 juin, où j'ai pu faire cette photo, les conditions météo au sommet du Pic du Midi avait été exécrable depuis les premiers 6 mois de l'année. Et la personne m'a dit, c'est le premier matin où on a enfin cet éclairage. Il m'avait prévenu, parce qu'on peut rester à regarder les étoiles toute la nuit, etc. Allez vous coucher, parce que les montagnes bleues, sur l'Ariège, ça dure pendant 3 minutes.
Ah, 3 minutes.
Hein. 3 minutes. Parce qu'après, c'est très beau aussi, mais c'est des nuances de ton de gris, avec l'orange, enfin voilà, donc ça évolue très vite, c'est autour de 6 heures du matin à l'époque.
Alors qu'est-ce qu'on voit, pour ceux qui n'ont pas la photo sous les yeux, puisque c'est de la radio?
Ben le soleil est toujours pas levé.
Des montagnes bleues.
Et on voit des montagnes bleues, mais ça, voilà, pendant 3 minutes. Et quand,
c'est un vrai bleu, moi je les ai sous les yeux, c'est impressionnant.
Ça va du bleu au violet, enfin c'est fantastique. Et depuis le pic, on a aussi les différentes strates, à chaque couche, on dirait, de montagne, on a une couleur de bleu différente. Et pour finir sur le ciel qui du jaune va monter au rouge en quelques minutes. Et donc, j'étais aussi monté pour avoir ce match avec les montagnes bleues australiennes qui sont bien connues en début de matinée, avec l'éclairage rasant du soleil. Les eucalyptus présents sur la zone donnent cet aspect, avec la brume, de montagnes bleues. Et alors, le truc le plus extraordinaire en plus, c'est que le directeur artistique et Frédéric Lissac, le directeur de Plume de Carotte, c'est eux qui ont choisi la couverture. Et quand on met les deux photos côte à côte, comme elles sont sur la couverture, on se rend compte que les lignes des montagnes...
C'est vrai, j'ai même pas remarqué.
Ouais,
se touchent presque.
Match aussi.
Décidément.
Donc c'était assez extraordinaire.
Incroyable. Alors, allez, on se balade après ces montagnes bleues qui nous ont bien mis en bouche. En plus, c'est super. On commence par le plus haut point, non ? Ou un des plus hauts points des Pyrénées, en tout cas.
Un des plus hauts points, parce que l'autre plus haut point de l'Occitanie, il est juste en face du pic, c'est le Vignemale.
Un des plus hauts points, en tout cas. Alors, on se balade. On est toujours en Ariège. Destination donc de ce début de deuxième partie. Et alors là, vous nous emmenez à des sources d'eau chaude. C'est au-dessus du coin de Mérance, si je ne me trompe pas, en Haute-Ariège. Dites-nous où c'est, et puis que sont ces sources d'eau chaude qu'on trouve dans la montagne.
Alors ça aussi, c'est un site assez exceptionnel. Par contre, très facile d'accès. Mais il faut y aller quand il fait froid, si possible quand il y a de la neige. Même le mieux, c'est quand il y a beaucoup de neige. Et si possible, pas le week-end, parce que comme c'est facile d'accès...
Il y a du monde.
Oui, et même là, ce jour-là, il faut monter, il faut mettre les chaînes, etc., pour arriver à Mérens. La route est bloquée pour aller au pas de la case depuis Ax-les-Thermes. Donc, il faut au moins arriver jusqu'à Mérens. Après, il faut monter, traverser le village de Mérens à pied. Et à la dernière maison de Mérens, il y a un petit sentier qui part dans la neige. 15 minutes après, on est sur les sources. Et d'ailleurs, le sentier se déneige naturellement parce que l'eau sort ruisselle des petites vasques où on pourra se baigner. Et comme elle est à 40 degrés, eh bien, elle fait fondre la neige sur le sentier sur lequel on marche.
Donc on voit des messieurs qui se baignent comme en Islande. Hein.
Voilà.
Et c'est d'ailleurs l'Islande que vous avez choisie comme autre photo.
Voilà, parce que là, toute l'année aussi en Islande.
Donc c'est au pied du volcan Elka, Ekla, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a plusieurs sites en Islande. Mais celui des Pyrénées, il est... Aussi, en Occitanie, il y a plusieurs sites, hein, mais celui de Mérens-les-Vals, il est vraiment superbe. Moi, je me souviens, ce jour-là, il neigeait, il faisait moins 5 degrés, donc il faut se déshabiller assez rapidement, etc. Mais une fois qu'on est dedans...
Et l'eau est à combien, vous dites?
37-40. Et donc, c'est vraiment top, hein, c'est vraiment top. Une fois qu'on est dedans, on a envie de rien laisser dépasser. Hein.
Allez, on décolle. Et on va cette fois du côté de l'Aveyron, où vous nous parlez du loup de l'Aubrac. Et alors là, je me suis dit, des loups sur l'Aubrac, est-ce qu'il n'a pas rêvé? Y a-t-il vraiment maintenant des loups sur l'Aubrac? Racontez-nous cette photo. On en voit quand même combien? Trois sur la photo?
Oui. En fait, il existe depuis quelques années une meute de loups arrivée d'Italie qui se trouve pas loin d'un petit hameau qui s'appelle le hameau de la Blatte. En bas de ce hameau, il y a un pont fantastique, un pont romain. Moi, j'étais aussi parti pour aller le photographier.
Citez-nous une autre ville ou un autre village.
Alors, le village le plus connu
pas très loin.
De la zone, c'est Nasbinal.
Nasbinal.
Bon, donc là, on est sur l'Aubrac, vraiment sur le plateau, à 1100, 1200 mètres. Et on a parfois l'impression que le plateau est désertique, qu'il n'y a pas d'arbres, mais il y a quand même quelques bosquets, etc. Et dans la combe qui descend depuis Saint-Laurent-de-Muret vers le hameau de la Blatte...
La combe, c'est donc le ruisseau, c'est ça?
Enfin, non, c'est la...
C'est, la descente, pardon
c'est, ouais, c'est le, la vallée. Enfin, la vallée assez serrée en bas.
Donc on arrive à ce...
Ouais, et dans ce secteur-là, il n'y a pas très longtemps, ils ont retrouvé une carcasse de cerf au milieu du hameau, déchiquetée par la meute, abandonnée là. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui que ces loups qui avancent vers l'ouest et qui sont en train de reconquérir tout l'espace de France... Mais ils sont aujourd'hui au port de Toulouse. Ils sont déjà dans les Pyrénées-Orientales. Ils sont bien installés sur l'Aubrac. Et bientôt, ils vont arriver à Brest. Donc,
les loups sur le plateau de l'Aubrac, c'est vrai que c'est... Pardon pour les éleveurs, mais c'est vrai que c'est assez mythique. Parce que, en tout cas, c'est le...
Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts.
Autrefois, il y en avait beaucoup. Et c'est donc l'histoire de l'Aubrac que d'avoir fait en sorte que ça soit moins dangereux.
C'est surtout, je pense, toute l'histoire de France, avec toutes les histoires autour du loup qui ont fait que...
On n'est pas très loin de la bête du Gévaudan, quand même, dans le coin. C'est...
Oui, mais c'est beaucoup d'histoires inventées par l'homme, alors que la plupart du temps, quand même, c'est quand même une bête assez peureuse et qui n'est pas là pour affronter l'homme. Il a compris que c'est pas lui qui gagnerait. Et donc, depuis longtemps, il est malin, et quand même, il est arrivé du Mercantour, il a traversé la vallée du Rhône, il traverse des zones très peuplées, sans faire trop de dégâts, ni sans trop se faire remarquer, et puis il finit par s'établir sur des zones où il a de quoi manger, où il n'y a pas trop de population, et au final, où il retrouve des conditions de vie acceptables.
Alors là, la photo, elle est de vous? C'est vous qui avez pris la photo de cette meute de loups sur le plateau de l'Aubrac?
Oui.
Ah oui, on imagine quand même que c'est du travail tout ça. Alors ça vous a fait penser à un autre lieu. Est-ce que c'est une chose vue, le loup arctique de la toundra?
Oui.
Vous êtes allé jusque là-bas?
Non, alors donc une grande partie des images qui matchent sur le monde ont été prises sur des banques d'images.
D'accord, ça vous a fait penser à... Voilà, c'est pas toujours des lieux où vous êtes allé?
Pas toujours, mais certaines photos qui matchent, c'est des photos aussi qu'on a fait ou des lieux où on est passé. Voilà. Mais là, en l'occurrence, non, mais ça fait tout. Ça fait vraiment penser à ces immensités froides qu'on trouve dans les toundras arctiques, où là, le loup règne en maître, avec une densité de la population très faible. Et pour ceux qui sont déjà allés dans l'Aubrac...
Aubrac, 6 habitants au kilomètre carré, hein.
Oui,
je
mais,
crois. Hein.
Mais,
enfin,
moi,
pas pour tout le plateau,
franchement, mais... pour de, moi qui suis un petit Pyrénéen dans l'âme, j'ai été profondément marqué par mon passage sur l'Aubrac.
Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas ?
J'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Voilà. Et chaque fois que j'y vais, j'ai chaque fois la même impression. Et c'est assez jouissif. Voilà.
C'est vrai que c'est un paysage magnifique. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Parfois, on se croirait un peu sur la Lune, même si j'y suis jamais allé. Alors, il faut dire que votre ouvrage a été préfacé par Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Preuve Pyrénées-Méditerranée, preuve que cet ouvrage fait de la publicité pour la région. Allez, une dernière balade avant de faire une deuxième pause. Alors, tout à fait surprenante, rien à voir. Igue de Pie, je ne sais pas si on prononce comme ça.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Je vais vous laisser décrire, parce que moi, je ne trouve pas les mots. Commencez par nous dire où ça se trouve, en Occitanie.
Bon, ça se trouve du côté du village de Compolibat, dans l'Aveyron. Donc, selon par où on arrive, et à la saison où on y va, on peut avoir de grosses surprises. Les routes sont extrêmement étroites. L'herbe n'est pas fauchée et les tracteurs locaux avec les remorques immenses. Et donc, quand on se retrouve face à face avec eux, il faut reculer. Enfin, c'est vraiment un autre monde aussi que pour pénétrer cette zone de l'Aveyron qui est en dehors des nationales. Et donc, après, on est récompensé parce que au-dessus de ce petit village, phagocyté totalement par la forêt, donc on ne voit rien, pratiquement rien tant qu'on n'est pas sur site. On a ces immenses termitières de terre rouge, où lorsqu'on est à côté, on est infiniment petit, dans un décor de forêt, avec il faut y aller au printemps, là, avec les feuilles vertes, c'est extrêmement...
Donc c'est de l'argile rouge, hein, qui ressemble à des immenses termitières, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Et donc qui sont sculptées et érodées depuis des milliers d'années. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui ne sera peut-être pas tout à fait exactement la même chose que ce qu'on verra l'année prochaine.
Quand vous dites immense, c'est quoi ? C'est 4-5 mètres ou...
Ah non, beaucoup plus, hein, beaucoup plus. Hein, oui, je ne sais pas, moi j'en fais déjà deux quasi, et je suis toujours comme une fourmi à côté. Quoi.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. Alors, il y a dans la zone...
Pourquoi ça ici, j'ai envie de dire c'est...
Je ne sais pas, mais la surprise est de taille, même pour les Aveyronnais, puisque j'ai beaucoup d'amis maintenant en Aveyron, un peu partout.
Qui se demandent en fait ce que ça fait ici, c'est ça ?
Mais qui ne savent même pas qu'il est loin chez eux.
Ah oui.
Ah oui, parce que bon, déjà, comme Polibat, il faut y aller, quoi. Et donc, c'est vrai que quand on est sur Espalion ou sur La Gueule... voilà, donc on n'est pas du tout dans la zone de Villefranche-de-Rouergue et dans l'arrière-pays où il faut batailler pour arriver jusque-là.
Alors à quoi ça vous a fait penser, là, en l'occurrence ?
Eh ben là, c'est tout trouvé, hein, mais... c'est tout trouvé, ouais, parce que aux États-Unis, ils ont ce site fantastique de Chiricahua. Alors, bien sûr, bien plus immense.
C'est dans quel coin des États-Unis, déjà ?
C'est vers l'Utah.
Ouais.
Voilà, donc
c'est sud-ouest. Hein.
Sud-ouest, voilà. Ouais. Et bon, bien sûr, beaucoup plus grand. Mais notre petit Chiricahua à nous, fantastique, coincé dans un coin perdu de l'Aveyron. Et Dieu sait si l'Aveyron aussi, pour moi, avec la Lozère notamment, c'était deux départements que je connaissais finalement très peu avant ce travail. Parce que nous, culturellement, quand on vit au pied des Pyrénées, on sort soit à gauche, on va sur l'Atlantique, soit à droite, on va en Méditerranée. Et au nord, pour nous, le nord, c'est Montauban. Donc, quand j'ai commencé ce travail...
Et quoi, l'Aveyron, c'est les buts du Massif central, mais c'est de la montagne à vaches, c'est ça pour vous ?
Ah non, pas du tout. C'est surtout que ça fait partie des plus belles zones de la région d'Occitanie.
Ah, donc vous n'aviez pas d'a priori, c'était juste que c'était loin.
C'était juste que culturellement, on n'y allait pas.
Ouais.
Voilà, on n'y allait pas. Et moi, j'ai découvert donc l'Aveyron, en fait, toutes les richesses, les habitants aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose à part. La Lozère... aussi fantastique, la Lozère. Très loin, pour nous un peu loin, parce que on peut rien faire sans mettre au minimum 6 ou 7 heures de voiture aller-retour dans la journée. Donc ça fait de sacrées journées, il faut partir très tôt le matin, et surtout que si on veut avoir les bons éclairages, il faut quasiment partir à 1h ou 2h du mat. Mais bon, nous, on a mis, en fonction du cahier des charges, les moyens, et donc on a mis 3 ans, mais au final, moi, j'ai l'habitude de me donner les moyens. Et donc, même quand on se donne les moyens, on n'est pas sûr d'avoir le bon résultat, parce que l'éclairage, c'est parfois aussi un peu aléatoire avec la météo, mais je dois dire qu'on a été souvent récompensés. Ouais.
Occitanie, miroir du monde, c'est donc le titre de votre livre paru aux éditions Plume de Carotte. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer à voyager près de chez nous. Et c'est plus que d'actualité. Voyage en Occitanie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On prend le large, on respire, on se fait du bien et on s'émerveille avec vous, Jean-Marc Sor, entomologiste amateur, auteur de Occitanie, miroir du monde, paru aux éditions Plume de Carotte. Je vais révéler un secret de fabrique. Hein. La responsable presse des éditions Plume de Carotte m'avait dit « Non, mais vous verrez, c'est un bon client, comme on dit dans le métier. C'est vrai que vous en sortez bien quand même. On a l'impression que vous avez fait de la radio toute votre vie. En plus, vous avez l'accent, c'est... Vous êtes fort. Hein. On va parler papillons un petit peu quand même, puisque il y a quand même quelques papillons et que j'allais dire c'est votre métier, en tout cas c'est votre passion au début. Et vous allez nous parler d'un papillon, alors je vais vous laisser le citer parce que je ne vais pas réussir à le prononcer.
Alors il s'appelle l'Isabelle des Pyrénées. C'est un papillon extraordinaire, c'est le plus beau papillon de nuit d'Europe et on a la chance... d'avoir des populations dans les Pyrénées-Orientales et jusque dans l'Ariège, la partie orientale de l'Ariège. Et donc,
vous pouvez le décrire pour commencer, c'est toujours difficile, mais alors, quelle taille, quelle couleur?
Il fait partie des plus grands papillons de nuit, donc ça, il fait pratiquement 10 cm d'envergure. Il a des ailes effilées sur les postérieurs et surtout, bon, chacun comprendra, parce que son nom, le nom habituel qu'on lui donne, c'est le papillon vitrail. Et donc, il a donc 4 yeux, 4 ocelles sur chacune des ailes. Et puis, c'est structuré comme un vitrail et il est de couleur vert jade. C'est surtout ça qui est vraiment extraordinaire.
Couleur transparente presque, hein.
Presque, mais vraiment, ça lui donne un aspect de papillon tropical. Alors qu'on est, je le rappelle, dans un endroit où il y a 4 vraies saisons, avec un hiver où il gèle. Et notamment, lui, c'est un papillon qui vit donc en montagne et qui vole sous la neige. Et il a la particularité...
Quelle altitude il vit ?
Pas forcément très haut, en moyenne montagne. En moyenne montagne, il est très bien présent du côté espagnol des Pyrénées. Côté français, c'est plus difficile. Parce qu'il est inféodé aux forêts de pins sylvestres. Et donc, en fait, ce qu'on comprend aisément qu'il est bien présent côté espagnol, tant que les forêts, naturellement, passent la frontière et couvrent la frontière et viennent côté français, il est présent. Dès que l'altitude de la chaîne commence à s'élever trop, eh bien, les forêts s'arrêtent côté espagnol. Après, il y a toute la partie minérale et ça a limité sa distribution ensuite vers les Pyrénées centrales.
Ça veut dire qu'il faut être un entomologiste amateur comme vous, président de Pyrénées Entomologie, pour arriver à le voir ou pas ?
Ben écoutez, nous on a eu la chance de travailler avec la DIREN de Midi-Pyrénées pendant une dizaine d'années et avec l'ONF pour savoir où il était présent de manière à essayer de préserver ses biotopes par rapport à des épandages d'insecticides pour tuer la processionnaire du pain, etc. Donc pouvoir dire attention, elle est là, elle est protégée au niveau mondial. Et donc, on a fait tout un travail d'inventaire sur la chaîne. Et donc, pour ça, on a fait aussi, pour avoir du matériel vivant, entre guillemets, pour savoir où elle était, on a fait des élevages. Donc, on avait une souche. Et je me souviens, donc, tous les ans, au mois d'avril, on partait avec nos femelles qui étaient... enfin, nos cocons, à l'intérieur duquel il y avait des femelles. Parce que donc, une fois qu'on ouvre le cocon, on est capable de savoir si ce qui est à l'intérieur, la chrysalide, ça va donner une femelle ou si ça va donner un mâle. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une fois que le papillon va sortir, que la femelle va sortir, eh bien, dès la première nuit, elle va émettre un parfum dans l'air de la forêt, des phéromones spéciales qui vont être capables d'attirer les mâles sauvages présents sur la zone, s'il y en a, à plusieurs kilomètres à la ronde. Et comment ça marche ? Eh bien, le mâle, il a des espèces de radars, des antennes très ramifiées qui sont capables de capter la moindre molécule de phéromone des femelles. Et ils volent. Dès qu'ils en captent une, ils volent vers la direction.
Vous avez vu les prétendants arriver, du coup ?
Bien sûr. Donc, alors on a fait d'ailleurs des tournages pour France 3 à l'époque, pour Pyrénées-Pyrénéos. On les a amenés sur les sites pour leur montrer ça, que c'était quand même un truc extraordinaire. Et puis nous, après, on a fait ce travail régulier d'une année à l'autre. Et en fait, j'amenais des pièges automatiques, des cylindres en fait, de plexiglas, ouverts sur les côtés avec une nasse. Au milieu, on mettait le cocon avec la femelle qui allait éclore. On laissait le cylindre dans la forêt. Et quand la femelle éclore, elle restait à l'intérieur du cylindre. Et donc les phéromones étaient diffusés par les côtés du cylindre et par les nasses. Et donc les mâles arrivaient tout autour, attirés par les phéromones. Dès qu'il y en a un qui rentrait, qui avait compris que au niveau de la nasse, c'était plus concentré encore. Il rentre, il s'accouple. Et quand il s'accouple, ça coupe l'émission de phéromones. Et les autres, comme s'ils étaient intelligents, comprennent qu'il n'y a plus d'émission. La concentration de parfum diminue, s'arrête. Et donc, ils repartent dans la forêt.
La place est prise.
La place est prise, ouais, voilà.
Alors, on revient plus près de chez nous. Cette fois, on va aller plus près de chez nous, pardon. On est diffusé dans toute une partie de la région Occitanie, toute la partie ouest, on va dire. Plus près de chez nous, j'entends près de Toulouse, parce qu'on a quand même pas mal d'auditeurs, et c'est normal qu'ils sont surtout sur cette zone. Manière aussi, en cette fin d'émission, de se rappeler que vraiment, ça peut être tout près de chez nous qu'on peut voyager. Vous nous emmenez dans la plaine du Lauragais. C'est une belle photo, en effet, aux airs italiens. Et quelle est votre comparaison ?
Ben, je crois qu'il y a pour nous, on est déjà latins, et je rencontre souvent des gens autour de moi qui rêvent de Florence, de Pise, de Sienne, voilà. Et donc, c'est quoi cette région extraordinaire ? Cette région, c'est la Toscane. Et notre Toscane à nous, elle est aux portes de Toulouse. Elle n'est pas loin. Ce n'est pas la peine de prendre le train ni l'avion pour aller jusqu'en Italie. Alors, bien sûr qu'on peut aller en Italie parce que là-bas, on est sûr de ce qu'on va y trouver parce que c'est très beau. Mais chez nous, juste à côté, on a aussi ces fermes isolées dans le Lauragais avec les cyprès.
Il y a les cyprès parce que sur la photo, il n'y en a pas de cyprès. Hein.
Alors, là,
sur notre photo du Lauragais, on se dit, mais quand même, il manque les cyprès là.
Mais ils y sont. Alors, sur des fermes isolées, etc. Là, j'ai pris celle-là parce que quand je suis passé en Toscane, et notamment pas loin de Pise, on avait aussi qui était venu se marier au paysage, avec bonheur ou pas, on le verra, mais ces champs d'éoliennes, maintenant, qui font partie aussi de la nouvelle Toscane moderne.
Ah oui, donc il faut y ajouter, en plus des cyprès maintenant,
oui,
éoliennes.
Quelques éoliennes. Et puis, ce jour-là, je me souviens, j'avais pris un risque inouï. On avait des entrées maritimes très fortes qui arrivaient de Narbonne. Je suis arrivé au-dessus de Saint-Félix. Je croise un paysan du coin. Donc, je m'arrête parce qu'on n'y voyait pas du tout. Et donc, j'étais presque un peu perdu. Et là, il me dit, si vous étiez venu hier, la vue, c'était terrible. Mais là, aujourd'hui, on ne voit pas à 10 mètres. Et ouais, je dis, mais bon, voilà, j'ai pris, je pensais que peut-être j'aurais droit à une petite trouée à un moment donné. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment donné, l'air s'est réchauffé. J'ai attendu juste ce qu'il fallait. Et j'avais, pour cette photo, en plus, de manière extraordinaire, les moutons en premier plan.
On les voit, des moutons en premier plan. C'est quand même une photo réussie, c'est quand même d'avoir un premier plan, souvent.
Aussi, et surtout d'avoir la brume qui s'est d'un seul coup déchirée. Quant à la deuxième photo avec les éoliennes...
C'est un coucher de soleil.
C'est un coucher de soleil. Et là... Comme ça arrive parfois, je rentrais de faire des images sur un autre secteur pour le bouquin. Et là, j'étais sorti de l'autoroute, mais tout le monde s'arrêtait. Tout le monde s'arrêtait tellement...
Le ciel est en feu.
Le ciel est en feu. Et il n'y a pas de filtre, c'est la couleur naturelle.
Alors, on va s'arrêter parce que, hélas, les auditeurs ne voient pas les photos, en tout cas sur celle-là. J'avais une question peut-être plus personnelle. J'espère qu'elle ne va pas trop vous surprendre. Vous nous avez dit, et je l'ai rappelé au début de l'émission, que vous êtes infirmier en bloc opératoire. En fait, votre quotidien, c'est d'être, comme en ce moment, parfois enfermé, et après... Vous courez les grands espaces. En fait, ce qu'on vit en ce moment, cette situation d'enfermement, d'avoir besoin de respirer, c'est toute votre vie, ça ou...
Oui, plutôt, parce que le bloc opératoire, j'ai l'habitude de dire, c'est en fait une vie de sous-marinier. Voilà. Donc, c'est un espace clos où l'équipe est très professionnelle, doit savoir ce que chacun doit avoir bien son rôle dans ce qu'il doit faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé en chirurgie cardiaque, et donc les interventions durent longtemps et il faut être assez précis dans tout ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup de tensions en plus en cardiaque parce qu'on arrête le cœur pour pouvoir opérer et réparer la problématique sur le cœur. Mais quand on l'arrête, l'évidence, c'est qu'après, il faut le faire repartir. Et donc, ça donne un stress au quotidien, ou une adrénaline, ça, c'est selon après, mais obligatoire. Et donc, quand on sort de ce bloc opératoire, quand l'intervention est terminée, que potentiellement le malade est guéri, c'est très gratifiant pour l'équipe. Et quand on sort de là, on peut couper tout de suite. Moi, je peux ensuite me retrouver 2 heures après, t'es l'objectif en main, faire de l'image.
On peut couper et on a envie de couper.
J'ai cette capacité, en tant qu'infirmier de bloc, de pouvoir le faire. Je sais que si j'étais infirmier dans un service, ma femme était dans ce cas-là, quand elle arrive à la maison, elle n'a toujours pas fini de me parler de sa journée. Voilà. Alors que moi, je peux couper parce que je sais que derrière moi, quand je m'en vais, il y a un copain qui a pris ma place et qui fait exactement le même job que moi. Et donc, il n'y a pas de perte de niveau, de compétences. En fonction du moment où je rentre ou je sors.
En tout cas, vous êtes habitué donc à être d'une certaine manière un peu confiné. Vous dites vite sous-marinier et après à prendre prendre l'air. J'espère qu'on ne sera pas confiné à nouveau, mais ça nous donne envie, comme vous, d'aller voyager. Alors, on s'était dit qu'on allait se balader dans le Tarn et Garonne avec ses cascades pétrifiantes ou dans le Lot avec les falaises de Copper. Mais je veux quand même vous laisser un peu d'air en cette fin d'émission et je vais vous laisser choisir où est-ce que vous avez envie de nous balader.
C'est-à-dire que Copper, c'est une zone vraiment intéressante parce qu'il y a une ambiance particulière au pied de ces falaises. Mais la belle histoire, c'est plutôt la cascade de Caylus. Dans le Tarn-et-Garonne, parce que c'est une cascade pétrifiante, c'est-à-dire avec l'eau qui vient apporter des dépôts.
Alors, essayez de décrire le lieu ou l'image.
Alors,
Je vais vous la remettre sous les yeux.
Alors, Caylus, c'est assez fantastique. C'est que j'y suis allé plusieurs fois, et selon les fois où j'y suis allé, il n'y avait pas du tout d'eau. Et donc, c'est surprenant. Un peu parfois décevant. Et donc, heureusement que le travail a duré 3 ans. La première fois que je suis allé, il n'y avait pas d'eau.
Alors, qu'est-ce qu'on y voit quand il n'y a pas d'eau?
Quand on voit le tablier tel qu'il est, avec la mousse, les dépôts calcaires.
Donc, c'est une espèce, en fait, de petite falaise de calcaire trouée, c'est ça?
En fait, c'est une cascade qui, chaque année, dépose un peu plus de dépôts là où passe l'eau, là où descend l'eau.
Donc c'est une forme de sculpture. Hein.
Oui, voilà. Et donc...
ça fait quoi, 10 mètres de haut, c'est ça ou...
Ouais, au moins. Non, un peu plus.
Un peu plus, 10-15 mètres.
Ouais, un peu plus. Et donc, je me suis dit, j'habitais pas à côté et j'avais essayé déjà plusieurs périodes dans l'année. Je suis toujours tombé à sec et j'avais vu des images avec beaucoup d'eau déjà. Donc, dans un premier temps, j'ai téléphoné à la gendarmerie du coin en leur disant voilà, je dois faire cette image. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de quelqu'un? Donc, ils m'ont donné la personne, une personne qui habite juste en haut de la cascade. Et il s'est trouvé que cette personne, dont je ne connais pas le nom, hein, mais qui gentiment m'a dit « Moi, j'ai besoin qu'il y ait de l'eau pour faire tourner une partie de... ou avoir une partie de mon électricité sur la maison. Et donc, si vous voulez, je vous tiens au courant au moment où elle est à bloc. » Et donc, à bloc, c'est en février. Et donc, un jour, il m'appelle et il me dit...
Cascade donc de Saint-Pierre-Livron, c'est
oui.
ça ?
Oui, et alors elle est au bord de la route. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc c'est pareil, c'est caché, on peut passer à côté sans la voir.
Si on passe vite, on ne va pas la voir. Ouais, voilà. Mais sinon, elle est extrêmement accessible. Et elle est spectaculaire, quoi. Vraiment spectaculaire.
Alors ça vous a fait penser à quoi ? Ça, c'est donc dans le Tarn-et-Garonne, cascade et pétrifiante.
Alors moi, je suis allé sur place aussi... dans cette zone-là du Laos, c'est les cascades de Tat Kwensi, pas loin de Luang Prabang, qui est une ville un peu au Laos comme comment dire, comme Lourdes par exemple, voilà, enclavée avec des bonzes, etc. Enfin, le Laos comme on le rêve et qu'on l'imagine sur le bord du Mekong, et ces cascades pétrifiantes où là il y en a plusieurs avec des baignoires d'eau turquoise en cascade en dessous, vraiment quelque chose de magnifique. Et donc là-bas, il y a de l'eau toute l'année, alors que chez nous, voilà, à Quélus, il faut y aller fin février, début mars.
Eh ben, merci pour cette balade, on aurait envie de continuer, mais après il va falloir se prendre en main et soit acheter le livre et le parcourir et après se promener en fonction des lieux que vous avez choisis.
Ben oui.
C'est d'ailleurs ce qu'on vous souhaite quand même, ainsi qu'aux éditions Plume de Carotte pour ce beau livre Occitanie, miroir du monde. Soit eh bien, prendre ses chaussures et puis aller découvrir toutes les merveilles de la région. Un grand merci Jean-Marc Saor.
Ben, merci de m'avoir reçu et puis je sais que le livre aujourd'hui, notamment cet été avec cette histoire de Covid, a été... mis en avant par la région Occitanie avec des jeux pour gagner des livres, etc., sur les réseaux sociaux. Et bien sûr que l'idée que j'avais développée un an auparavant, faites le tour du monde sans prendre l'avion tout en restant au sein de votre région.
C'est l'actualité.
Voilà, subitement, c'est ce que tout le monde a réclamé à partir du mois de mai. Et donc, avec Occitanie Miroir du Monde, vous avez 100 destinations pour pouvoir rêver tout près de chez vous.
C'est possible. Occitanie Miroir du Monde, aux éditions Plume de Carotte. Un grand merci à vous. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.